Le Burkina Faso a choisi son camp et ses biens vers l'axe de l'Est qu'il se tourne. Alors qu'il y a moins d'une semaine, la nouvelle ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rouamba, avait appelé l'Iran en tant que pays en proie au terrorisme depuis des années à partager ses expériences avec le Burkina, organisation regroupant plus d'une centaine d'organisations de la société civile. Faso Lagam Tabazaka a animé ce dimanche 10 avril 2022 à Ouagadougou une conférence de presse sur la situation nationale et a prôné un nouveau partenariat avec la Chine, la Russie ou Cuba. Il faut se faire des amis, car les partenaires, nous en avons eu avant même de connaître le terrorisme sur notre sol. Mais quel bilan pouvons-nous donner de ces partenariats? Faut-il toujours compter sur ce qui est toujours défaillant, voire chaotique? Nous disons avec Thomas Sankara que seule une rupture avec les faux amis et une réorientation de notre politique extérieure vers d'autres horizons pourront nous garantir des partenaires sûrs et sincères avec lesquels nous pouvons faire face aux défis du moment afin d'aboutir à une indépendance réelle, lancent les responsables de Faso Lagam Tabazaka demandant une rupture avec le système qui, selon eux, maintient l'incertitude. En clair, ils demandent la rupture avec la France pour un nouveau partenariat avec la Chine, la Russie ou Cuba. Pour l'association Faso Lagam Tabazaka, on ne peut pas gagner la guerre avec quelqu'un qui n'a jamais gagné une guerre. La France n'a jamais gagné une guerre et s'est toujours octroyé les victoires. La France n'a jamais gagné une guerre, on l'a chassée partout, déclarent les conférenciers qui rejettent toute idée d'une éventuelle installation de la force Barkhane au Burkina. Selon ses porteurs, cette association vise à promouvoir la solidarité et la fraternité entre Burkinabés. À ce titre, elle fait des propositions dans le souci de contribuer à la construction nationale. C'est d'ailleurs dans cet esprit que les conférenciers ont lancé un appel aux Burkinabés à éviter les fractures sociales qui sont un terreau favorable à l'insécurité. Tout est dit, la France n'est plus un partenaire fiable pour le Burkina, même après ce coup d'État que la France et ses alliés croyaient être dans leur intérêt. Mais ce n'est pas tout, car il semblerait que le Burkina suit le chemin de son voisin malien et a très bien compris à qui fait faire confiance ou non. Sur le plan militaire, l'idée des forces de défense volontaires semble être de nouveau mise sur la table. Le ministre de la Défense a lancé un recrutement de milliers de soldats. Ce recrutement concerne 3000 soldats du rang. En plus du contingent normal de 2000 militaires, un millier de soldats seront recrutés à titre exceptionnel, selon le ministre de la Défense. Les sélections se feront dans chaque chef-lieu des 13 régions administratives du Burkina Faso. Depuis la prise du pouvoir par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le renforcement des effectifs est à l'ordre du jour. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo-Damiba, président de la transition, avait déjà rappelé les sous-officiers militaires du rang admis à la retraite ces dernières années au titre de la réserve pour les besoins de la nation. Le scénario malien fait des émus cette fois au Burkina et ce, aux grandes dames des Occidentaux. En Éthiopie, l'heure est au désarroi pour le clan occidental. L'envoyé spécial américain pour la Corne de l'Afrique, David Satterfield, est en tournée d'adieu ce week-end à Addis Abeba. En d'autres termes, l'envoyé spécial américain a été expulsé de l'Éthiopie. C'est une surprise, car le diplomate avait été nommé très récemment, en janvier 2022. Alors que les négociations pour mettre fin à la guerre civile au Tigré ne donnent pas de résultats. Cette démission symbolise l'échec des États-Unis en Éthiopie. C'est ce qu'en dit RFI à ce sujet, un aveu d'échec clair et net. Après la démission de son ambassadrice fin janvier, c'est au tour de l'envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique, David Satterfield, de jeter l'éponge. Pour rappel, il avait été nommé à ce poste il y a seulement 3 mois. David Michael Satterfield est un diplomate américain et ambassadeur qui a beaucoup servi au Moyen-Orient, y compris dans la région du Golfe Persique, au Liban et en Irak. Il a ensuite été conseiller principal en Irak pour la secrétaire d'État Condoleezza Rice et directeur général de la force multinationale et d'observateurs, la force de maintien de la paix pour la péninsule du Sinaï de juin 2009 à août 2017. Il a été chargé d'affaires en Égypte à partir d'août 2013 jusqu'en janvier 2014 et ensuite été conseiller spécial du secrétaire d'État pour la Libye. De septembre 2017 à juin 2019, il a été secrétaire d'État adjoint par intérim aux affaires du Proche-Orient et a été confirmé l'ambassadeur des États-Unis en Turquie le 27 juin 2019. Avec cette nomination, des soupçons d'une tentative de reproduire la guerre syrienne en Éthiopie se sont fortement renforcés. En effet, comme le dit Enora Cham, un agent secret français dans son nouveau témoignage, l'ONU envoie des espions de l'OTAN en Syrie. L'objectif de la prise de fonction de ce Satterfield était exactement celle-ci. Alors qu'Abiy Ahmed a su comment maîtriser sur le terrain et éviter une régionalisation, voire internationalisation du conflit, les médias mainstream déboussolés par ce qui se passe sur le terrain et l'avancée considérable des forces éthiopiennes tentent de tout moyen de suivre leur désinformation afin de donner l'image d'une situation chaotique en Éthiopie. De son côté, l'Éthiopie renforce ses relations avec les voisins. L'Éthiopie et le Soudan du Sud discutent des possibilités de nouer un partenariat dans le secteur électrique. Il y a 3 semaines, le président djiboutien, Ismail Omar Guelleh, a été accueilli à Addis Abeba par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Bref, tous les aspects du plan occidental en Éthiopie visant à paralyser le pays aussi bien du point de vue militaire qu'économique sont tombés à l'eau. On a donc tenté d'accuser Abiy Ahmed de crimes contre l'humanité comme on l'a fait contre le président Assad. Tout ceci montre que l'étau se resserre autour de l'axe US-OTAN en Éthiopie. Les espions américains sont expulsés, l'armée avance, le pays élargit ses relations avec les voisins, il se tourne de plus en plus vers l'axe de l'Est. Bref, tout est réuni pour faire subir un échec de plus aux États-Unis. Addis Abeba continue de tenir tête aux États-Unis grâce à l'union entre la diaspora éthiopienne, l'armée fédérale, le gouvernement et la population éthiopienne. Washington voudrait frapper et briser cette union afin d'arriver à déstabiliser le pays. Il est 13h15, ce mardi 20 avril 2021, lorsque 15 généraux ont trahi sable. Apparaissent à la télévision tchadienne, 3 hommes sortent du rang. Celui qui s'approche du micro est le général de brigade Azem Bermandoa Aguna, porte-parole de l'armée. Il lit le communiqué annonçant la mort d'Idriss Déby, des suites de blessures reçues au front. 1 an après l'assassinat du président Déby, où en est le Tchad? Luc Michel, géopoliticien, nous en dit plus.
Ça fait déjà 1 an, ça a été une grande perte pour le panafricanisme et pour l'Afrique. Et le maréchal Déby me faisait l'honneur de m'honorer de son amitié. Il n'avait pas eu peur de ma mauvaise réputation en Occident, organisée par les médias occidentaux. Et lorsque nous nous rencontrions publiquement, notamment lors des sommets de l'Union africaine, il me donnait une spectaculaire accolade devant toute la presse réunie. Il était un homme sans peur qui conduisait lui-même ses troupes sur le front. L'année passée, 6 mois avant de mourir, il avait conduit ses troupes nettoyer les rives du lac Tchad, ce que n'était pas capable de faire Barkhane des djihadistes de Boko Haram. Et il a été abattu par un sniper alors qu'il partait combattre un groupuscule rebelle venu de Libye. Il semble qu'il ait été piégé par les Français. Il y a beaucoup de théories du complot qui sont répandus, je ne les partage pas. Simplement, on a donné de fausses informations au maréchal Déby et on a envoyé sa colonne combattre une colonne rebelle surarmée. On l'a envoyé en fait dans un piège. À peine il a quitté son véhicule qu'il a été abattu. La situation avait été stabilisée au Tchad. Lorsque la Jamaïria libyenne avait été détruite, c'est la géopolitique qui a horreur du vide. Et le rôle géopolitique qui était jusque-là joué par la Libye de Kadhafi a peut-être été assumé et joué par le Tchad du maréchal Idriss Déby. Donc, contrairement à Kadhafi, ce n'était pas sur la diplomatie et la gigantesque fortune de la Libye que s'appliquait le rayonnement du Tchad, mais sur son armée. Il avait combattu dans tous les pays autour du lac Tchad, jusqu'aux frontières de la Libye, pour empêcher le cancer djihadiste de se répandre. En particulier, en Libye, il avait empêché la Libye de basculer aux mains des djihadistes pro-américains, en développant notamment ce qu'on appelait le triangle de fer des généraux, avec Al-Sisi, Haftar et donc celui qui n'était pas encore le maréchal des Ney, puisqu'il est devenu dans les derniers jours de sa vie. À la fin de sa vie, il avait gagné une nouvelle élection présidentielle en triomphant d'une révolution de couleurs avec un double agenda, l'agenda des Français et l'agenda américain des réseaux Soros. L'homme qui était choisi par les réseaux Soros étant leur agent au Tchad, le petit politicien, le jeune politicien Success Masra. Il avait neutralisé celui-ci. Et donc, évidemment, le but de la mort de Déby, c'était de neutraliser le rôle du Tchad. Ajoutons qu'il avait aggravé son cas en se rapprochant de la Russie. À la suite du sommet de Sotchi, où il avait été reçu par Vladimir Poutine, il avait organisé un sommet économique à N'Djamena, Russie-Tchad, et il s'était rapproché des firmes russes comme le géant de l'énergie Rosatom. Il avait notamment confié à Rosatom l'électrification du Tchad, ce qui était le grand problème du pays, qui connaît encore de grosses pannes d'électricité. Il avait également signé des accords militaires avec les Russes, ce qui était très mal vu et provoquait la colère à la fois des Africains et des Français. Son fils est arrivé au pouvoir, non pas amené par les Français, mais par les Français qui ont tenté de le neutraliser, notamment Macron, en voulant apparaître comme celui qui parrainait le nouveau régime. Mais en réalité, les Français ont échoué. Petit à petit, le maréchal Déby, dont son fils a neutralisé les adversaires, il a neutralisé les groupuscules armés amenés notamment de Libye en organisant un dialogue national à Doha avec 29 coalitions politiques et militaires de l'opposition, ce qui a noyé les groupes armés pro-occidentaux. Et enfin, en juillet dernier, le même jour que le Mali signait les accords militaires à Moscou, le Tchad signait des accords similaires. Voilà donc ce qui se passe. La situation du Tchad est en train de se stabiliser. Le régime politique maintenant trouve ses marques. L'hostilité dont il bénéficiait était neutralisée. Les tentatives d'imposer une nouvelle révolution de couleur ont échoué. Les tentatives d'imposer une révolte des groupuscules armés ont également été neutralisées. Il faut savoir que le général Déby, non, est associé au pouvoir de son père depuis une dizaine d'années. Comme son père, c'était un général d'actif, ce n'était pas un planqué dans les états-majors de N'Djamena, c'était un général parachutiste qui commandait ses troupes sur le front. Il avait notamment en 2019 repris le contrôle pour le Tchad de la zone frontière avec la Libye, du Timesti et des mines d'or du Tchad qui se trouvent sur ce territoire. C'est donc en toute connaissance de cause qu'il a repris les rênes du pouvoir, formé par son père à celui-ci. Et donc, c'est un échec global des Occidentaux. Actuellement, le régime tchadien est assis entre deux chaises géopolitiques. D'une part, l'attirance vers le bloc de l'Est, comme le confirment ses accords avec la Russie. De l'autre, ses anciennes relations économiques, notamment avec les Occidentaux.
Le gouvernement kényan veut mettre les technologies de l'information et de la communication au service du développement économique de la nation. À cet effet, il multiplie les investissements dans le renforcement de son infrastructure télécom à haut débit. Le gouvernement kényan envisage de déployer 100 000 km de câbles en fibre optique à travers tout le pays dans les 10 prochaines années pour répondre à la forte demande en connectivité à haut débit. Le projet est contenu dans le plan numérique national 2022-2032 qui a été dévoilé lors du sommet Connected Kenya 2022 qui s'est tenu à Diani, dans le comté de Wale, du 10 au 14 avril. Dans le cadre de ce projet, la fibre optique sera déployée notamment dans 40 000 écoles et autres établissements d'enseignement, 20 000 institutions gouvernementales et 13 000 établissements de santé. Il est également prévu le déploiement de 25 000 points d'accès dans les lieux publics à travers le pays, ainsi que la création d'un hub dédié à la maintenance des câbles sous-marins. Depuis 2020, la COVID-19 a accéléré les besoins de transformation numérique des populations sur le continent africain. Les opérateurs multiplient les investissements dans leur infrastructure télécom à haut débit pour répondre efficacement à cette demande. Les sociétés de télécommunications Camtel, Soudacha Telecom et Soudatel envisagent de construire un câble à fibre optique qui reliera leur pays, à savoir respectivement le Cameroun, le Tchad et le Soudan. Le projet, baptisé West to East Africa Network Access, permettra de fournir une connectivité de données à haut débit sur le continent africain avec une capacité de 100 gigabytes par seconde. Long d'environ 3 500 km, le câble WeAfrica-NA partira de Port-Soudan sur la mer Rouge au Soudan, traversera le Tchad et ira jusqu'à Ribi, sur l'océan Atlantique au Cameroun. Dans un premier temps, il sera constitué de câbles individuels qui existent déjà au Cameroun, au Tchad et au Soudan avant d'être mis à niveau au début du troisième trimestre de cette année. Trois mille soldats supplémentaires vont être recrutés pour grossir les rangs de l'armée du Burkina Faso, qui subit de lourdes pertes lors d'attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières, selon un communiqué du ministre de la Défense transmis vendredi à l'AFP. Initialement prévu le 1er juin, le recrutement de 2 000 militaires du rang au titre du contingent normal et 2 000 autres à titre exceptionnel est ramené du 4 au 31 mai dans chaque chef-lieu des 13 régions administratives du Burkina, indique le ministre de la Défense, le général Aimé Barthélémy Sampouré. Les forces armées burkinabées sont estimées à entre 15 000 à 20 000 hommes, dont plus de la moitié servent dans l'armée de terre. Elles sont confrontées depuis 7 ans à des attaques djihadistes de plus en plus meurtrières au fil des années. La plus sanglante à ce jour a visé en novembre 2021 un détachement de gendarmerie à Inata, dans le nord, faisant 53 morts. Le gouvernement mauritanien a annoncé la mobilisation d'1,8 milliard d'ougouya pour l'entretien de routes et les axes prioritaires. Cette annonce a été faite jeudi par le ministre de l'Équipement et des Transports Mokhtar Ahmed Yedali lors d'une séance plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen de deux projets de loi relatifs à des contrats-programmes entre le gouvernement et l'établissement des travaux et d'entretien routier couvrant la période 2022-2024. Le ministre a dit que le réseau concerné dans ces contrats-programmes est de 5 436 km de routes bitumées, dont 328 vont être réhabilitées. Ould Ahmed Yedali a ajouté que le nouveau contrat-programme compte par ailleurs 967 km de voies non bitumées, ce qui représente une augmentation de 7% du réseau routier bitumé comparé au programme précédent.